Radio Grenouille, 10 minutes avec la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Géraud Poumarède, professeur d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne. Géraud Poumarède qui intervient dans le cadre d'une conférence intitulée « La paix dans l'Europe de la Renaissance » à l'occasion des journées de l'histoire de l'Europe à Marseille. Bonjour Géraud.
Bonjour.
Alors quel est l'état de l'Europe à l'époque de la Renaissance ?
Alors, donc... C'est une Europe marquée d'abord par le morcellement territorial, c'est-à-dire une grande division géographique, territoriale entre les États, les souverainetés, avec des États qui s'unifient et s'affirment. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Espagne, mais aussi des zones de cette Europe marquées par le morcellement territorial, dans l'Empire ou encore en Italie. Et enfin aussi, aux marges de celle-ci, la formidable progression de la puissance ottomane qui s'installe durablement en Europe orientale et balkanique et le long du pourtour méditerranéen.
Pourquoi la guerre est-elle omniprésente à cette époque ?
Alors, c'est la conjonction de plusieurs facteurs, de plusieurs types de guerres, pourrait-on dire. Tout d'abord, il y a les guerres liées à l'affirmation des souverainetés. Dans cette Europe moderne, et plus particulièrement à la charnière de la période médiévale et des temps modernes, l'État, la puissance monarchique, la puissance princière s'affirme, et elle s'affirme notamment à travers la guerre, ce qui donne lieu à des séries de grands affrontements qui vont marquer le XVIe siècle. On pense aux guerres d'Italie, on pense à l'affrontement structurant entre les Valois et les Habsbourg. Deuxième type d'affrontement, ce sont les clivages religieux, liés à l'affirmation de la réforme protestante à travers l'Europe, qui là encore va plonger l'Europe dans la guerre. Celle-ci est confrontée désormais à la diversité religieuse, à la question de la place respective du catholicisme et des protestantismes. Et cette question ne se soldera malheureusement que par le conflit, donc aussi bien dans l'Empire que dans la France des guerres de religion, par exemple. Et un troisième grand conflit structurant, c'est l'affrontement entre l'Europe, ou en tout cas une partie d'entre elles, et la puissance ottomane, qui est une puissance en expansion et qui menace l'Europe aussi bien sur ses marges orientales qu'en son cœur à travers la Méditerranée.
Le règne de François Ier était-il guerrier ?
Alors, c'est un paradoxe. Il a été guerrier puisque le règne de François Ier est marqué par une succession incessante de conflits avec Charles Quint. Au total, on recense entre son règne et celui de son fils, 6 conflits majeurs entre Charles Quint et son fils Philippe II d'une part et entre François Ier et Henri II de l'autre, dont 4 se sont déroulés sous le règne François Ier. Notons aussi que le règne de François Ier, le début de celui-ci, dont on fête cette année finalement le 5e centenaire en 1515, a d'emblée été marqué par des opérations militaires. À peine monté sur le trône, François Ier part pour une grande expédition en Italie, dans laquelle il se couvre de gloire à la bataille de Marignan en 1515, date fameuse de l'histoire de France que tout le monde connaît.
Vous parlez de l'affrontement entre Valois et Habsbourg.
Oui. Alors, effectivement, c'est un affrontement structurant dans la première moitié du XVIe siècle. Cet affrontement se situe dans la droite file des guerres d'Italie, les prolonge. Une des grandes pommes de discorde entre François Ier et Charles Quint, ce sera la domination sur le duché de Milan. Mais il a aussi des caractères propres liés à une rivalité entre les deux souverains, une rivalité qui s'amorce en 1519, lorsqu'ils sont tous les deux concurrents pour l'élection au Saint-Empire romain germanique à la suite de la mort de l'empereur Maximilien Ier. Charles Quint comme François Ier, enfin Charles Quint qui n'est alors que Charles Ier d'Espagne, comme François Ier sont candidats pour cette élection, c'est Charles Ier qui l'emporte et qui devient Charles Quint. Cela créera un antagonisme durable entre les deux hommes qui se trouvera conforté par des épisodes terribles de ces guerres entre Valois et Habsbourg, et notamment l'épisode de la bataille de Pavie en 1525. Bataille de Pavie à l'issue de laquelle François Ier est fait prisonnier par Charles Quint et sera emmené donc en détention en Espagne, à Madrid, où il passera plusieurs mois avant d'être libéré en janvier 1526. Et naturellement, cela a marqué aussi cet antagonisme entre les deux hommes.
Vous évoquez également une fracture religieuse.
Alors oui, la France va en tout cas être marquée par la fracture religieuse. Alors plutôt dans la deuxième période de la Renaissance, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, qui coïncide avec les guerres de religion, le protestantisme va s'enraciner dans le royaume dans la première moitié du XVIe siècle. Protestantisme lié à la fois à une aspiration diffuse à la réforme de l'Église dans le royaume, présente donc avant Martin Luther, dès la fin du XVe siècle, à la diffusion des thèses luthériennes sur les franges orientales du royaume, et surtout, à partir donc des années 1530, à la diffusion du message calviniste depuis Genève à travers le royaume de France. On va voir se constituer des communautés protestantes qui, à partir du milieu du XVIe siècle, représentent plusieurs millions de personnes, 2 à 3 millions, donc répartis à travers le royaume et surtout dans un croissant réformé depuis le Nice et la Saintonge à l'ouest jusqu'à la France du sud-est. Cette présence protestante va finalement déboucher dans la seconde moitié du XVIe siècle sur les guerres de religion. Il y en aura 8 au total entre 1562 et le massacre de Vassy qui marque l'entrée dans les guerres de religion et l'édit de Nantes en 1598 qui marquera leur fin. Ces guerres de religion sont liées à la question centrale qui va occuper finalement la France et la monarchie du pluralisme religieux. Quelle place dans un royaume habitué à l'unicité de la religion, quelle place faire aux protestants ? Toute une partie du monde catholique leur est résolument hostile et considère qu'il n'y a aucune place à leur faire, que seule l'extermination ou la conversion des protestants serait acceptable. C'est la frange la plus extrémiste du catholicisme, donc incarnée par les Guises, qui sont à l'origine, à travers le massacre de Vassy, de la première guerre de religion, et qui joueront un rôle crucial dans les autres. Mais la monarchie elle-même est gênée par cette présence protestante, car aux yeux de la monarchie, le pluralisme religieux est difficilement acceptable. Comment, en effet, donc gouverner des sujets qui n'auraient pas la même religion que leur prince ? Comment gouverner des sujets qui auraient d'autres fidélités, et d'autres ambitions, d'autres aspirations ? C'est un problème central et c'est ça qui va animer donc les guerres de religion dans la deuxième moitié du XVIe siècle.
Et alors justement, comment a émergé cette idée de faire la paix ?
Alors, il y a plusieurs types de paix, comme il y a plusieurs types de guerres. Si l'on prolonge la réflexion sur les guerres de religion, les paix qui vont accompagner chacune de ces 8 guerres de religion sont des paix dont l'issue, en fait, dépend donc de l'issue des combats, plus ou moins favorable aux protestants selon que les protestants eux-mêmes auront remporté plus ou moins de succès dans les guerres de religion. Et ce sont des paix qui sont marquées par l'idée de compromis. Il faut trouver, à l'issue de ces guerres, finalement, les règles qui permettront aux protestants d'exister dans le royaume. En général, ce sont des paix qui leur reconnaissent la liberté de conscience, ils peuvent être protestants en conscience, et qui organisent aussi une relative liberté de culte, ou plutôt une tolérance du culte protestant dans un royaume qui reste catholique. Cette liberté est plus ou moins grande, cette tolérance est plus ou moins grande selon l'issue des combats. Cela s'achève avec l'édit de Nantes de 1598 qui va s'efforcer d'organiser une paix durable, un édit de Nantes qui réaffirme le primat de la religion catholique dans le royaume de France. C'est la religion du roi, c'est la religion du royaume, mais qui, à travers une série de privilèges, permet aux protestants de vivre leur foi et de vivre leur culte.
Et comment justement va se dérouler la pacification de la chrétienté ?
Alors, à l'échelle de la chrétienté, la question protestante, elle est réglée, si l'on voit la pacification religieuse, la question protestante, elle est réglée à travers des compromis, des paix particulières qui ont lieu. Alors, dans l'Europe du Sud, l'Italie ou l'Espagne, c'est la lutte contre le protestantisme qui l'emporte et ces régions restent catholiques. Dans l'Europe du Nord, c'est la conversion donc au protestantisme qui l'emporte. L'Angleterre bascule dans le protestantisme, les monarchies du Nord aussi. Il n'y a que l'Europe médiane, finalement, celle de la France, de l'Empire, où l'on cherche des compromis politiques à la question religieuse. Il y aura le compromis français, il y aura aussi le compromis germanique autour de la paix d'Augsbourg de 1555 qui établira le principe cuius regio, eius religio, un prince, une religion. Dans chaque état de l'Empire, la religion des sujets sera la religion de leur prince, qu'il soit catholique ou protestant. Sur ces paix religieuses se surimposent des paix politiques. Les princes européens qui luttent pour l'affirmation de leur souveraineté vont aussi donc s'efforcer de faire la paix ensemble et dans le cadre des princes, les paix prennent la forme de relations interpersonnelles. Les relations entre princes sont des relations, et c'est un moyen pour les princes d'affirmer en quelque sorte leur domination sur l'Europe, de leur domination sur le monde et sur leur territoire, sont des paix négociées personnellement et manifestées à travers des relations personnelles. Elles sont placées sous le signe de l'amitié entre les princes. En 1559, la paix de Cateau-Cambrésis est ainsi marquée sous le signe de l'amitié entre Philippe II et Henri II. Elle se solde aussi par des mariages, qui sont la manifestation de ces paix entre princes. Donc, les mariages accompagnent la conclusion des paix. La paix des dames en 1529, qui est une des paix qui jalonne l'affrontement entre les Valois et Habsbourg, s'accompagne du mariage entre François Ier et la sœur de Charles Quint, Éléonore de Habsbourg, qui est une des conséquences, mais aussi des conditions de la paix. La paix de Cateau-Cambrésis en 1559, qui met un terme à l'affrontement entre les Valois et Habsbourg et aux guerres d'Italie, s'accompagne du mariage entre Philippe II, le roi d'Espagne, et Élisabeth de France, la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, donc le couple royal français. À chaque fois, donc, c'est sur un mode personnel que les rois de France et les rois d'Espagne concluent leur paix. Enfin, le troisième type de paix correspond au troisième type de guerre, c'est ce grand affrontement entre l'Europe et l'Empire ottoman, dans lequel finalement, à l'époque moderne, il n'y a pas véritablement de paix définitive. Il n'y a que des trêves. Que des trêves parce que l'antagonisme religieux est tel, l'hostilité, au moins rhétoriquement, est si profondément enracinée que seule la trêve est envisageable. On ne peut envisager de paix durable. C'est vrai du côté catholique, chrétien, c'est vrai aussi du côté ottoman. Naturellement, cela n'empêche pas aussi le développement d'autres types de relations, et l'on voit aussi des États européens qui ne sont pas directement en guerre avec l'Empire ottoman développer des relations amicales, proches. C'est le cas de la France notamment, qui dès François Ier va entretenir des relations extrêmement étroites avec l'Empire ottoman, notamment en utilisant l'Empire ottoman contre ses propres guerres contre les Habsbourg. Il se met ainsi en place toute une sorte de panel étendu de types de relations possibles avec les Ottomans, depuis la coopération politique, commerciale, jusqu'à la trêve et à l'affrontement, selon que l'on est plus ou moins proche de celui-ci, plus ou moins exposé aussi à ses entreprises militaires.
Et que va apporter justement la paix à l'époque de la Renaissance ?
Alors, les liens... Alors, la paix apporte généralement la prospérité. C'est ainsi qu'on la représente en tout cas. La guerre est étroitement liée dans les représentations du temps au malheur des peuples, que ce soit les malheurs physiques. On pense par exemple aux grandes déclamations d'Agrippa d'Aubigné, le grand poète, sur les guerres de religion, qui décrivent les horreurs de ces guerres et la violence que subissent les populations, que ce soit aussi les horreurs économiques. Du coup, le retour à la paix, c'est le retour à la prospérité. Et l'on voit effectivement dans cette Europe du XVIe siècle, qui est une Europe de guerre, guerre politique, guerre religieuse, on voit des enclaves de paix qui sont aussi des enclaves de prospérité. On peut évoquer l'Angleterre d'Élisabeth Ière. Certes, la paix n'est pas parfaite dans l'Angleterre d'Élisabeth Ière. Elle est confrontée aux difficultés religieuses. Elle doit faire face à des révoltes, à des complots d'origine catholique contre son pouvoir. Elle fait la guerre contre sa voisine, Marie Stuart. Mais globalement, l'Angleterre, le royaume d'Angleterre est épargné par les conflits, même si la souveraine elle-même donc, est en butte à des difficultés, à des hostilités. Et cela se traduit par une prospérité de l'Angleterre dans la seconde moitié du XVIe siècle. La croissance de Londres, qui devient une place économique et financière quand les places des Pays-Bas connaissent des difficultés liées à la révolte de celle-ci. Londres devient une ville énorme, passe de 75 000 à 200 000 habitants en un demi-siècle. La prospérité anglaise, avec l'essor de la draperie anglaise, des manufactures textiles, ou encore l'essor du commerce anglais sur les océans, avec les premières grandes compagnies anglaises qui se fondent en 1581, la Compagnie du Levant, ou en 1601, la Compagnie des Indes orientales, et qui témoignent du rayonnement économique de l'Angleterre sur les océans. Dans le cas de l'Angleterre, la paix, c'est la prospérité. On retrouve aussi, en quelque sorte, cela dans le royaume de France, tardivement, une fois refermée la parenthèse des guerres de religion qui a marqué le second XVIe siècle. 1598, l'édit de Nantes, donc, qui ramène la paix entre catholiques et protestants, coïncide aussi avec la pacification du royaume, l'achèvement de celle-ci, donc par Henri IV, qui a dû conquérir son royaume sur les opposants catholiques à celui-ci, notamment la Ligue. 1598, c'est aussi la paix de Vervins qui conclut à nouveau la paix entre la France et l'Espagne, puisque Philippe II, le roi d'Espagne, s'était opposé à l'avènement d'Henri IV sur le trône de France. 1598 est une année charnière à partir de laquelle, après avoir reconquis son royaume, rétabli la paix religieuse, Henri IV s'attelle aussi à la reconstruction économique de celui-ci et engage le royaume dans une politique et une situation de prospérité qui est incarnée par celui qui va véritablement donc porter la politique économique du roi, dont on garde souvent la mémoire historique, qui est Maximilien de Béthune, le duc de Sully, l'homme, le ministre des Finances d'Henri IV, qui va incarner ce renouveau économique et cette nouvelle prospérité de la France, une fois donc achevée la période des guerres, guerres politiques, guerres de religion, guerres extérieures, après 1598. Donc il y a un lien très fort entre guerre et prospérité.
Merci beaucoup Jérôme Pomarède.
Merci à vous.
C'était 10 minutes avec Jérôme Pomarède, professeur d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne sur Radio Grenouille.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...